fidèles auditeurs et téléspectateurs des programmes de Studio Kalangu, bonsoir et bienvenue dans ce numéro du Forum de la presse de Kalangu de ce vendredi 11 juin 2021. Votre rendez-vous hebdomadaire qui vous propose des analyses sur des faits saillants ayant marqué l'actualité de la semaine qui s'achève avec des confrères de la presse. Au menu du numéro de ce soir, nous discuterons d'abord sur cette rencontre entre les représentants des organisations de la société civile nigérienne et le président de la République, chef de l'État, Mohamed Bazoum. C'était le lundi 7 juin dernier. Ensuite, nous parlerons de la réception du prix Mo Ibrahim par l'ancien président de la République du Niger, Issoufou Mahamadou, le 3 juin lors d'une cérémonie virtuelle. Enfin, nous terminerons avec la suspension annoncée de la coopération militaire entre la France et le Mali. Nous parlerons aussi de l'investiture du nouveau président de la transition malienne, Assimi Goïta. Pour analyser tous ces sujets, nous avons le plaisir de recevoir ce soir Alhaji Mahamadou Souleymane. Il est journaliste au journal en ligne Niger Inter. Arimi Abba Kiari, journaliste à la radio alternative. Et Sidikou Ousmane, journaliste indépendant. Bonsoir à vous, chers confrères.
Bonsoir.
Et bienvenue à la modération de ce forum de la presse. Je suis Michel Deji. Une fois de plus, bienvenue si vous venez de nous rejoindre dans ce forum de la presse du studio Kalangu que nous débutons par cette rencontre entre les représentants des organisations de la société civile nigérienne et le président de la République, Mohamed Bazoum, le lundi 7 juin. La rencontre s'est déroulée en présence du premier ministre, chef du gouvernement, Ouhumoudou Mahamadou, et du ministre en charge de l'Intérieur, Alkash Alhada. Arimi Abba Kiari, pourquoi une telle rencontre dite de prise de contact avec le président de la République, Mohamed Bazoum?
Pourquoi? C'est peut-être vouloir lire un peu dans les initiatives du président de la République. Mais toujours est-il que ce n'est pas le premier groupe qu'il rencontre. Et il va continuer apparemment à en rencontrer d'autres. Donc, c'est son approche pour entrer en contact avec
tous les forces vives de la nation.
De la nation, comme on dit justement. Et donc, je pense que c'est très important. C'est le point de départ, à mon avis, d'un dialogue, d'un changement. N'est-ce pas, peut-être d'une décrispation, certainement, parce que il y a, en fait, c'est son régime, mais vraiment, en 10 ans, nous n'avons pas encore assisté à ce genre d'initiative que nous saluons, même si, en ce qui concerne les organisations de la société civile, de ce qui nous est parvenu, nous aurions appris que bon, la parole n'a pas été distribuée comme il se doit, donc équitablement avec ceux qui, entre ceux qui voulaient la prendre, n'est-ce pas? Il y avait un nombre important de personnes et il y en a qui se sont plaints. D'ailleurs, je me rappelle, il y en a des radios qui ont passé des sons pour dire où ces acteurs-là disaient que sciemment, celui qui distribuait la parole les sautait. N'est-ce pas? Parce que certainement il s'attend à. Il sait un peu ce qu'ils doivent, qu'ils veulent dire. Et donc, bon.
Pourtant, tout le monde a été invité. On a vu des grandes figures. On a l'impression de dire que c'est vraiment.
Tout le monde a été invité parce que c'est aussi quand même une opération médiatique, n'est-ce pas, de communication. Si d'autres n'étaient pas invités, bon, ça allait déjà faire foirer la chose. En tout cas, moi, j'ai dit que ça a un goût de ses biens, mais ce n'est pas encore arrivé. J'espère que ça sera corrigé. Quand il faut dialoguer, je crois qu'il faut dialoguer jusqu'au bout. On est en démocratie. La liberté d'expression, ça n'a jamais tué personne. Donc, quand vous invitez quelqu'un, vous lui permettez de dire ce qu'il veut, mm-hmm. je crois que c'est vous qui gagnez. Il n'y a rien à craindre. On se connaît tous dans ce pays-là. Déjà qu'on empêche à quelqu'un de parler, ça veut dire qu'on sait un peu ce qu'il va dire. Mais alors, le public aussi, ceux qui suivent à la télé, à la radio, ne sont pas aussi dupes que ça. Ils connaissent aussi tout un chacun. Le public nigérien particulièrement est connaisseur. On se connaît entre acteurs de la société civile, acteurs politiques, acteurs des médias. Mmh. On se connaît. Et donc, vraiment, dialoguons jusqu'au bout. La mise en œuvre de ceux qui sortent des dialogues, c'est une autre chose, mais c'est un grand pas de franchi si on peut permettre à chacun de s'exprimer comme il entend. Je sais aussi qu'il y a une partie...
Ça a été donc, de votre point de vue, l'un des points faibles de cette rencontre.
Oui, tout à fait, à mon avis.
Il y a des acteurs qui n'ont pas pu parler.
Et
qui avaient des choses peut-être importantes à dire.
Certainement sur le cœur. Et c'était une rencontre la plus attendue, certainement, pour dire ces choses-là qu'ils n'ont pas pu dire. Et l'autre chose, je sais aussi qu'il y a une partie de la société civile qui a préféré donner une plateforme, est-ce que c'est comme ça que je dois, un mémorandum, n'est-ce pas, qui dormait depuis longtemps, n'est-ce pas, qui a été à l'origine de beaucoup de problèmes et tout, mais qui ont profité pour lui transmettre ça. C'est pourquoi j'ai dit aussi que c'est une rencontre, quoi qu'on dise, qui est importante, n'est-ce pas, mais qu'il faut vraiment, quand on pose les jalons d'un dialogue, il faut aller jusqu'au bout. On a besoin de point de vue de tous les Nigériens, n'est-ce pas, et je crois qu'il l'a bien perçu, le président de la République, mais qu'il l'assume aussi jusqu'au bout. C'est lui qui a gagné, à mon avis.
Merci à vous. Elhadji Mohamadou Souleymane, vous avez rédigé un article sur cette rencontre. Pouvez-vous nous rappeler sur quoi ont porté justement les échanges entre société civile et président de la République, Mohamed Bazoum?
Donc, merci bien, sauf que je dois préciser par rapport à ce qu'a dit Arimi, ce n'est pas conforme à ce qui s'est passé. Véritablement, il y a une première liste qui a été ouverte de 13 intervenants. Je ne suis pas sûr que le directeur de cabinet en second qui était donc désigné pour prendre
les listes,
qui l'a fait vraiment de façon... Quand vous voyez vraiment, même ceux qui ont intervenu, ça représente vraiment la diversité de la société civile. Et les débats, les interventions étaient libres, il n'y a pas de censure. Ce qui s'est passé, le temps a beaucoup joué. Donc, le temps que le président de la République réponde à la première...
aux questions des personnes inscrites sur la première liste.
Il doit d'abord répondre justement aux questions qui ont été posées. Il est déjà 20h et j'ai vu entre-temps son directeur de cabinet venir. Le président de la République, il a quand même un agenda qu'on doit comprendre qu'effectivement... le temps qu'il doit accorder, c'était un rendez-vous de 17h à 20h. Donc franchement, moi, ce que je peux dire, il n'y a pas vraiment l'intention de censurer les gens. Et la preuve, si vous avez suivi vraiment, vous interrogez en tout cas les gens qui peuvent vous dire ce qui s'est passé, vraiment, c'était une sorte de conférence nationale où vraiment les gens se sont défoulés. je peux vous dire que ce qu'on a vécu. Et on a vu justement le président de la République qui instruit ici maintenant. L'exemple que je peux donner, c'est quand Samira Sabou, par exemple, elle a amené le débat qui fâche.
La question de la reconnaissance.
Le président dit au ministre de l'Intérieur, je vous instruis, monsieur le ministre de l'Intérieur, pour signer, en fait, il faut signer tous les arrêtés. Il dit quand il était ministre de l'Intérieur, il n'a jamais eu connaissance de ce problème. Et je vous assure que tellement c'était vraiment ouvert. Samira Sabou, sur le champ, elle a donné ses références au ministre de l'Intérieur. En fait, c'est dire que, franchement, c'est un élément, effectivement, il y a quelques frustrés, c'est vrai. C'est-à-dire que l'idée, c'est qu'on allait aller jusqu'à 22h ou 21h, mais c'est vraiment, je pense que c'était pas sciemment. Et le président de la République était dans donc, l'obligation de dire que non, il faut qu'il réponde. Et que bon, par rapport à ce qui
a été discuté... Donc pour vous, c'était plutôt un manque de temps.
En tout cas, honnêtement, je pense que c'est cela. Moi, de mon point de vue, c'est une première, mais je pense, comme l'a dit Arimi, le président de la République, dans le cadre, je crois, de ces 5 jours, il est en train de prendre vraiment la température du pays pour, avant de commencer véritablement de commander, à défaut de faire un état de lieu de la situation du pays, il essaie de rencontrer donc, les uns et les autres pour en fait, parce que les gens, justement, amènent des doléances, comme l'a dit Arimi, par exemple, j'ai vu des gens qui ont été prévoyants, donc ils n'ont pas eu la parole, ils ont amené effectivement leur papier écrit pour dire voilà nos préoccupations. Donc je pense que ça va lui permettre véritablement d'ici la fin de ce
jour. Vous pensez donc
que
le président aura le temps de lire
le temps vraiment. Il a échangé avec les gens, il a parlé, il a pris des engagements. Par exemple, quand le président de la République dit à la société civile aidez-moi à lutter contre la corruption et la concussion, vous comprenez que dans le contexte nigérien, les gens n'attendent que ça. Donc finalement, en réalité, comme on dit, il s'est donc mis la corde au cou. Effectivement, ils sont là. Il a dit, faites votre travail d'alerte, de dénonciation. Mais justement, c'est ce qu'ils font. Cela veut dire que davantage...
Justement, à la corruption, à la concussion, il y en a qui étaient venus avec beaucoup de choses, on imagine, puisque ça a été à la base
oui,
déjà
justement,
de plusieurs
manifestations. Oui, justement, les gens ont parlé, par exemple, du dossier, l'affaire du ministère de la Défense. En tout cas, bon, la question de l'impunité, les gens ont parlé, les gens vraiment se sont défoulés. De sorte que, véritablement, maintenant, on attend les actions du président, effectivement, comme l'a insisté Samira Sawou. Donc, on attend vraiment de voir que vous puissiez joindre donc, l'acte à la parole.
Alors, je remercie. On se rappelle que le chef de l'État, Mohamed Bazoum, dans son discours d'investiture, avait annoncé, je cite, « S'agissant de la liberté, je n'ai pas l'impression d'être particulièrement audacieux si je disais que je veillerais à ce qu'elle prévale pleinement dans la limite des contraintes légales prévues à cet effet. » En tout cas, je m'engage résolument à mettre fin à certains malentendus qui ont pu avoir cours entre nous et certains acteurs de la société civile ces dernières années. Fin de citation. Ousmane Sidikou, peut-on voir là que le président veut justement mettre fin à certains malentendus constatés dans le passé avec une partie de cette société civile et lui donner plus de liberté à travers cette rencontre?
Moi, je pense que, Alaa, je l'ai dit, on a vu quand même les figures de proue de cette société qui ont eu la parole. Mais je ne veux pas me hasarder à dire que voilà ce qu'il a dit à l'épreuve des faits. Mais toujours est-il que le cadre soit créé, c'est déjà une bonne chose, que la société civile, dans sa globalité, tout bord confondu, soit convié au palais de la présidence pour discuter véritablement des problèmes. Cela rentre dans le cadre vraiment des actions à saluer. Certes, des engagements n'ont pas été pris de part et d'autre, mais je pense que ça doit être pérennisé. C'est une bonne chose parce que quand vous prenez vraiment, même si nous n'avons pas la cartographie de toutes les organisations de la société civile, on ne peut pas quand même, même si en repartissant la parole, Alaa, je l'ai dit, peut-être, il a un agenda chargé. Certains, j'avoue, certains, ce n'est pas pour dire grand-chose, Michel. Certains, c'est juste pour du populisme, donc comprendrez. Je ne dis pas que ça, c'est à tort, mais il faut qu'on surpasse ces détails. Vraiment, moi, je pense que le fait de les avoir conviés, maintenant, il faut pérenniser, il faut passer à l'action. Vraiment, il a dit de jouer leur partition en tant qu'alerte, à eux de jouer. Et lui aussi, quand on va alerter, il faudrait que les mesures soient prises sans complaisance aucune. Moi, je salue l'initiative.
Ça veut dire que vous voyez à ce niveau un engagement sincère du président de la République.
En tout cas, le fait de les avoir conviés pour que qu'on lui dise de vive voix les provocations, elles sont multiples de ces organisations. Donc, gageons qu'il ait pris bonne note et que cela soit traduit dans les faits. Samira l'a dit, maintenant que l'acte soit joint à la parole, comme disent aussi les British Wait and See. Mais préalablement, moi, je salue vraiment cette initiative. Donc, passons maintenant à autre chose, c'est-à-dire concrétisons, même si je rappelle que des engagements n'ont pas été pris de part et d'autre, mais il faut vraiment passer à autre chose.
À cette rencontre, le président de la public a appelé la société civile nigérienne à apporter sa pierre à l'édifice en jouant pleinement son rôle de sentinelle pour une bonne gouvernance au Niger. Il a dit, je cite, « Nous avons besoin de vous dans le combat contre la corruption et dans le combat contre la concussion. Vraiment, je voudrais vous dire que j'ai besoin que vous me donniez la main », avait-il déclaré. Arimi Aboukiari, quel doit être le nouvel élan que doit prendre la société civile nigérienne pour réussir à jouer pleinement ce rôle auquel le président de la République a appelé?
Mais écoutez, la société civile est de tous les secteurs de la vie de la nation. Il y en a qui sont spécialisés dans la lutte contre la corruption. Il y en a qui sont spécialisés dans la défense des droits de l'homme. Il y en a qui sont dans l'agriculture, dans l'élevage, de la sécurité, les conflits, ainsi de suite. Il y en a vraiment beaucoup. Avec les élections qu'il y a eu avant-hier, j'aurais appris qu'il y avait au moins 450, quelque chose comme ça. Et je crois que donc c'est beaucoup, et il y en a à boire et à manger vraiment, si ce n'est que ça. Et je pense que la société civile nigérienne, bon, il faut du tout, vous savez, pour faire un monde, mais quand même est l'une des plus actives vraiment de la sous-région, sinon en Afrique, je dirais. Donc on est assez éveillé. Malheureusement, à une certaine époque, ce travail-là a conduit certains à être en prison, à être taxés, d'être contre le régime et tout. Je crois que l'essentiel du travail dans ces rapports-là, l'essentiel du travail doit être fait d'abord vraiment par le président de la République lui-même, n'est-ce pas, qui a déjà fait un pas et qui doit rassurer les gens, n'est-ce pas, par les actes qu'il va poser, par son appréciation du travail que les gens vont faire, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire dans ce pays. Hein. Mais on a vu à une certaine époque, juste pour avoir, dit ne pas être d'accord avec un budget, ce que ça a valu à une frange de la société civile. Ce n'est pas le budget, c'est annuel. Il y en aura au moins 4 pendant que le président sera dans son premier mandat. Les gens vont traiter, par exemple, de la même manière. Et est-ce qu'il va vraiment accepter d'accueillir les observations, que les critiques que les gens vont faire? C'est de ça qu'il s'agit. Et la question de la corruption, on a vu avec l'affaire du ministère de la Défense, n'est-ce pas? L'affaire a failli vraiment, je dirais, plutôt se retourner contre ceux qui dénoncent. Or, c'est de l'information. Il s'agit de vérifier, de revérifier et de la rendre publique. C'est ce que les journalistes font. Est-ce que un journaliste qui accepterait de mettre son pied vraiment dans le plat, n'est-ce pas, sera vraiment compris? Parce qu'une information, a priori, les règles sont les mêmes pour la traiter. Tu as vérifié, revérifié, confirmé même parfois, mais ça peut s'avérer toujours faux. Ça peut toujours, tu peux ne pas avoir toute la vérité. Il y a des risques dans le métier. Est-ce que les journalistes seront compris dans ce contexte-là? Il y a vraiment plein de questions qu'on doit se poser et qu'on pourrait se poser sur le rapport entre la société civile et l'État et le gouvernement, je dirais. Donc vraiment, et l'effort à faire, c'est au gouvernement de faire. À mon avis, il y aura toujours la société civile, comme on dit, pro et contre, n'est-ce pas? Pro, c'est ceux qui essaient de caresser dans le sens du poil. Et ceux qu'on qualifie de contre, c'est ceux qui essaient de sortir la chose la plus
brute.
Ceux qui dénoncent.
Et on voit un président qui appelle à dénoncer.
Est-ce que ça sera... C'est extrêmement difficile, je sais. Le pas à franchir, c'est extrêmement difficile. Merci. Parce que quand même, nous avons affaire à des politiciens, n'est-ce pas, qui doivent aussi préserver énormément de choses. Ils ont des alliances à préserver, ils ont des rapports vraiment à préserver, des gens qui leur ont permis de venir au pouvoir, tout ça. Donc bon, j'espère que vraiment le philosophe président que nous avons va pouvoir faire la part des choses.
Merci à vous, Elhaji Mohamedou Souleymane. C'est vrai, la société civile, dans le cadre de ses actions citoyennes, il arrive d'ailleurs qu'elle demande plus de liberté pour avoir des choses à dire, notamment la liberté de manifestation. Par rapport à tout ça, que peut faire le gouvernement pour faciliter la tâche à la société civile nigérienne, vous pensez?
Que peut faire le gouvernement? Je pense que le président de la République, il était ministre de l'Intérieur sortant du régime précédent. Et je l'ai entendu dire à l'occasion justement de cette crise avec la société civile, il était ministre de l'Intérieur, à l'occasion d'une interview, il nous dit que lui, il n'est pas d'accord. Le principe pour lui, c'est la liberté. C'est-à-dire que s'il doit être amené à interdire, c'est lorsque véritablement il y a une sorte de distorsion entre, dans le respect des principes donc, et les règlements de la République. Donc, mais ce que j'ai compris...
Est-ce à dire que vous pensez qu'il avait donc fait des choses qui n'étaient pas de son intention personnelle?
Mais absolument, parce que moi, je, quand par exemple, à un certain moment dans ce pays, il y a eu beaucoup de fraude dans les examens, mais des confrères sont allés voir le président de la République, ils étaient informés qu'il y a des hautes personnalités qui sont dans le coup et qu'effectivement, il faut que vraiment... Ils vont demander en tant que président du parti au pouvoir, qu'est-ce qu'il en pense. Il dit, mais écoutez... Nous sommes des ministres, nous sommes des directeurs généraux, nous sommes en tout cas dans des positions de leadership. Il dit que mais si on ne remercie pas Dieu, il nous faut encore aller dans les concours où les enfants des paysans peuvent profiter. Mais il dit qu'on ne va pas protéger personne. Donc son opinion, son option à lui, c'est qu'on devrait sévir sur tout le monde. Mais vous savez, comme l'a dit Arimi, le contexte politique est tel que souvent...
effectivement,
il faut se faire violence. Parce que le président de la République a une volonté farouche justement de cause de la corruption. Mais si véritablement ses alliés ne sont pas prêts, par exemple, quand j'ai l'exemple du président Issoufou, par exemple, pour le cas de deux ministres et un député, on allait lever leur immunité. Mais le débat était autre parce que les alliés n'étaient pas d'accord. Et même au sein donc, de son parti, il y avait un problème en tout cas où, franchement, ces personnalités ont échappé. Donc, c'est dire que c'est vraiment un sacerdoce. Il est conscient que, véritablement, s'il doit le faire, franchement, ce n'est... Et il a dit ce n'est pas facile. C'est pourquoi il demande donc le soutien de la société civile. Parce qu'en vérité, quand vous dites que vous allez lutter contre la corruption, vous vous mettez en réalité le couteau au ventre parce que tout simplement, politiquement, on va, heureusement peut-être pour lui, il a une majorité confortable à l'Assemblée, mais est-ce que c'est suffisant? Donc vous voyez, je pense qu'il a besoin justement, ses alliés objectifs, c'est la société civile, parce que je pense que l'opinion publique, parce que vous voyez, en réalité, je ne pense pas qu'un président de la République, si effectivement il est sincère, s'il frappe en tout cas les délinquants de tous les bords, s'il montre vraiment sa sincérité, la société civile va le soutenir, mais je pense que toute la population va l'applaudir parce que simplement, je pense que le Nigérien, comme tout peuple en tout cas, aspire vraiment à la justice, en tout cas, vraiment aux valeurs. Et sincère. Donc je ne pense pas que s'il fait ce travail, c'est périlleux. Parce que imaginez aujourd'hui, au sein membre de son propre parti, et on a vu justement à ce moment-là, ces militants sont déjà en tout cas en première ligne dans les affaires. Donc moi je pense que cette rencontre, le président a fait ça à dessein. Il est conscient justement peut-être des périls.
Ça veut dire que ça nécessite des actions.
Mais absolument. En fait, vous voyez, en réalité, dans un pays comme le nôtre, lorsqu'on se permet de s'amuser avec l'argent du public, c'est qu'on tire le pays la bourse vers le bas. On ne peut rien faire. Par exemple, sur la question de l'école, le président dit que voilà, il a parlé de l'IDH au niveau de la société civile.
Le dernier classement.
Vous voyez, c'est que l'IDH, voilà. Je sais que si j'ai dit je vais investir dans l'éducation, j'ai dit que je n'aurai aucun gain politique par rapport à ça. Mais j'ai dit qu'il faut qu'on le fasse pour notre pays. Si on ne le fait pas, le pays va toujours être dernier. Mais il faut qu'on le fasse. Donc, vous voyez un peu, en réalité, il y a des questions essentielles. Le président a montré véritablement qu'il a cerné, en tout cas, sa prise de conscience des défis qui assaillent le pays. Maintenant, il a besoin donc de moyens et de soutien de tous.
Merci Eladji. Ousmane Sidikou, de votre point de vue, comment le gouvernement peut aider cette société civile à vite avancer pour pouvoir passer à l'autre sujet?
Je, à écouter mes deux aînés, mes confrères, je suis sceptique, Michel, honnêtement par là, et tout laisse à croire, à accorder un tout petit peu du crédit à ceux qui penseraient que c'est quelque part, c'est du populisme qui est en train d'être fait à travers cette valse d'audience à la présidence. Pourquoi je suis sceptique? Parce que le président, il l'a dit, il est prêt vraiment, il demande à être aidé, il demande à ce qu'on alerte. Aujourd'hui, où gît le scepticisme? C'est quand, par exemple, au nom d'un quelconque intérêt ou enjeu politique qu'il ne puisse pas sévir. Moi, je me dis que, comme on dit, quand on veut faire on ne peut pas faire des omelettes sans casser des œufs. Donc, pour moi, il aurait vraiment fallu que il se donne les moyens, peu importe, advienne que pourra. Mm-hmm. Par exemple, je vous donne, quel qu'en soit ce que ça pourrait lui causer comme préjudice, surtout mm-hmm. politiquement parlant, mm-hmm. moi je pense que, Alaa, je l'ai dit, il s'est mis la corde au cou. Maintenant, cette société civile, elle n'a cessé vraiment de jouer sa partition. Moi, je pense qu'elle va continuer à le faire. Mais maintenant, est-ce que de l'autre côté, par exemple, du côté de tenants du pouvoir, est-ce qu'ils seront prêts vraiment à ce que vraiment les conditions soient créées pour que ceux qui arriverait à commettre d'impair ne puisse pas être puni. Moi, je me dis que vraiment la société civile n'a fait que jouer sa partition pendant toutes ces années et je suis sûr qu'elle va continuer à la jouer.
Mmh. Merci à vous. Nous allons passer à autre chose, c'est-à-dire au deuxième sujet de ce forum de la presse. Il s'agit de la réception le 3 juin dernier par l'ancien président de la République du Niger, Issouf Mahamadou, du prix Mo Ibrahim. Un prix qui récompense une gouvernance exceptionnelle en Afrique. La cérémonie s'est déroulée en format virtuel pour des raisons de restrictions liées à la pandémie de COVID-19. Rappelons que dans le sillage de ce prix, il y a eu le lancement samedi 27 mars 2021 à Niamey de la fondation Issouf Mahamadou FIM, une fondation à travers laquelle son premier responsable Issouf Mahamadou a prévu d'œuvrer en faveur de la paix, de l'éducation, de la santé, de l'environnement, de l'eau, mais aussi du panafricanisme après son départ de la présidence de la République. Rappelons que le prix Mo Ibrahim est une récompense de 5 millions de dollars US qui permet aux dirigeants africains de poursuivre une action citoyenne sur le continent une fois leur mandat achevé. Selon le journal Jeune Afrique, ces 5 millions de dollars, soit un peu plus de 2,5 milliards de francs CFA, sont versés sur 10 ans, accompagnés d'une allocation à vie annuelle de 2 000 $, soit environ 110 millions de francs CFA par an. Ousmane Sidikou, quelle analyse par rapport à la réception de ce prix et au nouvel engagement de l'ancien président de la République, Issouf Mahamadou, à travers sa nouvelle fondation, la fondation Issouf Mahamadou FIM?
L'analyse, Michel, quand vous avez dit, entre autres critères, une gouvernance exceptionnelle, mmh. exceptionnelle, moi je pense que c'est tout sauf ce à quoi nous aurions à assister pendant sous le magistère de ce même Issoufou, ancien président de la République.
Et pourtant, pendant trois ans, on dit que le prix n'a pas été décerné. Justement, il a fallu attendre Issoufou pour qu'on ait
entre autres, on dit des présidents en fin de mandat. Mm-hmm. Quand le prix lui a été décerné, était-il en fin de mandat? Mm-hmm. Du coup, vraiment, je serais d'accord à beaucoup mm-hmm. d'observateurs mm-hmm. qui ont vu en cela vraiment une sorte de décrédibilisation du fait de décerner ce prix, Michel. Mm-hmm. Franchement, par là, moi, quand j'ai entendu, et quand vous regardez les critères d'attribution, il y a un déphasage, il y a une contradiction. Vraiment, je ne peux pas trop m'étaler là-dessus.
Autrement dit, vous ne croyez pas à ce
non,
mérite.
Je n'y crois honnêtement pas. Je n'y crois mm-hmm. pas. Je vous donne deux exemples. Mm-hmm. Vous parlez de gouvernance exceptionnelle. Président en fin de mandat, honnêtement, pendant ces deux critères-là, est-ce
en dehors de ces critères, il y a aussi l'aspect respect, limitation de mandat, c'est-à-dire qu'il n'a pas pensé à un troisième mandat.
Vous savez, il faut que les gens se reviennent sur terre. Le fait, est-ce que, honnêtement parlant, serait-on amené à féliciter un professeur qui a fait ses heures normales de cours? Où est le satisfait? Il s'est acquitté de ses heures normales de cours. Mm-hmm. Est-ce qu'il y a lieu de tambouriner ou bien de crier ça sur tous les toits?
Mm-hmm. C'est une
donc, moi, je me dis
normale.
Que cette limitation des mandats, il faut que les gens. Mais ce sont les délais constitutionnels. Mm-hmm. Mais si. Le président est forcé, est tenu à respecter ses délais constitutionnels. C'est comme je vous l'ai dit. Mm-hmm. Est-ce qu'on serait amené à décerner un satisfait à un professeur du seul fait qu'il aille à faire ses heures normales de cours? Mm-hmm. Donc il n'y a pas lieu de s'extasier ou bien de vouloir tambouriner ça sur tous les toits.
Merci Elhadj Mohamed Souleyman. Qu'est-ce qui a valu ce prix à Issouf Mahamadou de votre point de vue?
On parle selon les critères du comité Mo Ibrahim, ils ont cité quelques éléments. Mm-hmm. Ils ont pensé que la gestion de la sécurité du président Issoufou n'est pas mauvaise dans le contexte donc du Sahel. Il a non seulement une vision pour son pays, mais aussi pour les autres pays. Mm-hmm. Ce leadership qu'il a assuré donc, sur la question de la sécurité de son arrivée au pouvoir, on sait justement, il avait, du fait de sa vision, ce qui est venu de la Libye, il a pris des mesures. On a vu ce qui
s'est passé. Selon vous, donc, la sécurité
au Mali
a été bien assurée.
La sécurité, selon,
en dehors de la sécurité.
Il y a des. Je pense que sur ce terrain, la situation que nous vivons, elle est très difficile. Mais le comité Ibrahim, en considérant en tout cas ce qu'il a eu à faire, sa vision, son leadership, est appréciable, non seulement dans son pays, mais aussi le fait de vouloir aussi de la paix chez ses voisins. Il s'est battu en tout cas pour le Mali, pour le Sahel. Donc, deuxième élément sur qu'ils ont considéré, dans le cadre de COVID, en tout cas sur le plan sanitaire, là aussi, ils ont parlé de cela. Mais l'élément le plus déterminant, c'est ce que vient de dénigrer mon confrère,
c'est du coup.
Cette question-là, il ne voit pas de soi. Mais pourquoi justement, parce que Alpha Condé l'a fait, pourquoi Ouattara? En fait, c'est évident, tous nos pays ont les mêmes taxes presque. Mais certains arrivent en Afrique à déroger. Donc lui, avant de prendre, il dit « je ne le ferai pas ». Et de façon constante, il ne va pas le faire parce que...
Mais est-ce que ce n'est pas parce que lui-même, il sait que le contexte nigérien est un peu différent et particulier, parce que ça n'a jamais...
Il peut oser soit échouer ou bien réussir, comme les autres ont osé réussir. Il peut le réussir, pourquoi pas. Donc, je pense que, de ce point de vue, quand on lit, on prend vraiment la réalité des choses... aujourd'hui, Issouf, il est plus vigoureux qu'Alpha Condé, que Ouattara. Il est, je veux dire, qu'en forme pour continuer à diriger. Mais tout simplement, il a considéré que c'est à son honneur de partir. Et vous savez qu'effectivement, rien que ça, en quittant le pouvoir, parce que comme dirait Martin Luther King, quand vous arrivez au sommet de la montagne, tu vois quoi, c'est un peu comme cela, ce qu'il va gagner en termes de reconnaissance, parce que je pense que les Sédoukou, dans les années à venir, vont voir effectivement que ce geste-là de Issou, effectivement, fait de lui aujourd'hui un grand leader et va jouer dans le monde entier.
On va le
pour justement venir
faire
la médiation.
Il va
moi, je me dis qu'aujourd'hui, nous parlons d'un président, on n'a jamais vu ça au Niger. Il est là, en fait, à côté, le président Issou. Nous parlons de Bazoum. C'est-à-dire qu'il y a qu'il faut effectivement aussi lire l'histoire avec un peu de réalisme. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de surréaliste, mais les faits aussi, c'est ce que les hommes peuvent... quand quelqu'un
merci, fait, on fait, vous a bien fait, compris. Arimia Bakiyari, est-ce qu'on peut dire qu'en réalité, Issouf Mahamadou, on peut conclure qu'il a été un modèle au plan continental en décidant de ne pas briguer un troisième mandat?
Ce n'est pas les Nigériens qui l'ont... vraiment qui lui ont attribué ce prix. Bien sûr que donc c'est ce qu'il a posé comme acte au plan international a dû lourdement peser. C'est le champion de la ZLECAF, c'est ça?
Bien sûr.
C'est aussi il était président de la de l'IOMOA, il
de
était
la
de la CEDEAO, il était, en tout cas on l'a entendu beaucoup au plan international. À cela, bien sûr, le comité a ajouté la gestion de la crise sécuritaire. Bon, que nous vivons dans notre chair, mais que eux voient de l'extérieur, parce que qu'ils me connaissent justement, parce qu'il a fait venir beaucoup d'armées étrangères. Ils pensent que la crise est gérée vraiment autant que faire se peut. Or, au moment de son départ, si je ne m'abuse, il y avait au moins 265 000 déplacés sur le territoire nigérien que les organisations internationales gèrent autant qu'ils peuvent eux aussi. Aussi, ils ont mis dans la balance qu'il est parti après deux mandats, il n'a pas augmenté. Certes, mais je reste sur le fait que c'est, le Niger reste un pays exceptionnel. Lui-même a remplacé quelqu'un qui a été plus populaire que lui, mais qui a quitté par la petite porte, par la petite porte. On espère que l'essentiel de cet argent, on en a beaucoup besoin, que ça sera investi au Niger, n'est-ce pas, que la fondation verra le jour au Niger, avec son siège, avec ses employés, et avec une redistribution vraiment au sein de la communauté, vraiment où il y a beaucoup de nécessités, n'est-ce pas, et qu'il va mettre cet argent-là vraiment au moment, là où ça doit être, là où c'est destiné, et ça sera réparti sur 10 ans. lui-même a trouvé une très belle prise en charge, bien qu'il soit ancien président, qu'il a sa prise en charge du Niger, mais aussi quand même 110 millions par an pour pendant toute sa vie. Bon, c'est une très bonne chose, c'est d'un Nigérien qu'il s'agit. Vraiment, je crois qu'il faut prendre les choses à leur juste mesure. C'est bien qu'un Nigérien ait... vraiment, il faut s'en féliciter.
Merci beaucoup. Abordons enfin la dernière partie de ce forum de la presse de Studio Kalangou. Il s'agit de la suspension par la France de sa coopération militaire avec le Mali. En ce qui concerne la suspension de la coopération militaire bilatérale avec Bamako intervenue le 5 juin dernier, elle est temporaire et réversible, avait annoncé Paris, qui estime que l'armée française ne pouvait plus rester aux côtés d'un pays où il n'y a plus de légitimité démocratique. Trouvez-vous cet argument des autorités françaises convaincant, Sidikou?
Vous savez, Michel, pour caricaturer cette décision de la France, je t'héberge chez moi, tu penses que tu n'as rien à voir avec moi, est-ce que tu es obligé de rester chez moi? Donc franchement, il fallait s'y attendre. Moi, je pense que maintenant, avec... cette décision
est-ce
de
qu'il
Paris.
N'y a pas eu un élément déclencheur?
Tout à fait. Beaucoup pensent que c'est ce qui s'est passé en Centrafrique, ça a fait tache d'huile au Mali. Mais moi, je pense que, honnêtement parlant, maintenant, il revient aux autorités de la transition à prendre toute la mesure d'une telle décision française et conséquemment se donner ses moyens pour faire face aux défis qui sont nombreux, multiples et multiformes, surtout les défis sécuritaires. Moi, je pense qu'ils doivent être sur une bonne lancée. Le président Goïta semble avoir vraiment le soutien du peuple malien maintenant, que ce peuple-là daigne vraiment l'accompagner dans l'exercice de ses fonctions. Et il ne faudrait pas que les gens voient en cette transition la solution pratiquement de tous les problèmes ou bien de tous les maux qui minent ce pays, frères et amis. Donc, c'est des jalons qui sont posés. Moi, je pense qu'il faut soutenir, il faut encourager ces nouvelles autorités. Moi, honnêtement, ce que j'ai apprécié, c'est vraiment la réduction du train de vie de l'État. C'est bien, mais ils doivent vraiment persévérer, ils doivent prospecter. D'aucuns pensent qu'avec les Russes, ça peut pallier à l'appui ou bien
comme
à la coopération
militaire.
Comme partenaire militaire. Je ne me hasarderai pas à dire oui, mais moi je pense que la tâche revient beaucoup plus aux autorités à travers les FAMA de prendre vraiment toute la mesure ou bien toute l'importance ou bien des enjeux qui sont liés à une telle décision de la France. On ne peut que prier pour eux pour que vraiment ils ne puissent pas regretter.
Rappelons que ce sont quelques 5000 soldats français que la France avait déployés pour combattre les groupes djihadistes affiliés à Al-Qaïda et à l'organisation État islamique dans le cadre de l'opération Barkhane. Les autorités maliennes n'ont jamais contesté les succès militaires enregistrés depuis 8 ans dans le cadre de cette coopération qui inclut la formation des éléments des forces armées maliennes, FAMA, même si des exaspérations ne manquent pas du côté de la population et de la société civile malienne. El Hadji Mohamedou Souleymane, que faut-il craindre après cette décision?
Ce qu'il faut craindre, vous l'avez dit, la France a plus de 5000 hommes sur le territoire malien. La France, sans la France, je pense que personne ne va me condamner. Sans la France, avec l'opération Serval, le Mali allait être pris par les djihadistes. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Alors, la France reste maître du jeu en France, au Mali. Donc, ce n'est pas aussi simple que cela. En termes de conséquences, la France a le sentiment qu'elle a fait un travail, qu'elle a abattu un travail. Vous voyez, en fait, dire qu'on vous remercie comme ça, ce n'est pas facile. Aujourd'hui, le territoire malien, le Mali ne contrôle pas vraiment
l'intégralité de son territoire.
Donc, je pense que moi, ce qui me semble plus rationnel pour le Mali, il faut une action diplomatique qui puisse mettre en avant l'intérêt général du pays, discuter avec tout le monde. Les Français, ce qu'ils ont fait de mauvais, c'est qu'à libérer le Mali, ils n'ont pas désarmé tout le monde. Ils ont fait en sorte que l'armée malienne, en tout cas, ne contrôle pas tout le territoire du Mali. Ça, c'est une injustice. Ce n'est pas normal. Donc, il va falloir le fameux accord d'Alger dont on parle. Justement, les Maliens, c'est que le reproche, rediscuter les problèmes, en tout cas, que véritablement les Français puissent aussi lâcher du lest accepter la souveraineté du peuple malien, mm-hmm. mais penser que véritablement il faut renvoyer les Français comme ça, cela peut être dangereux parce mm-hmm. qu'en plus de leur présence aussi, les renseignements, l'instruction de l'armée malienne, ce qu'aujourd'hui c'est périlleux.
C'est risqué. Donc, il faut espérer que tout absolument. Se passera les bien Russes, comme l'a souhaité.
Les Russes peuvent venir.
C'est de consommer.
C'est-à-dire que dans mm-hmm. une diplomatie vraiment proactive, mm-hmm. ce qu'ils peuvent en même temps avoir les Français, mais discuter aussi, les Russes peuvent venir aussi travailler pour l'intérêt du Mali.
Merci, donc, on vous a bien compris, et c'est dans ce contexte que le colonel Assimi Goïta a prêté serment lundi dernier à Bamako au Mali. Son investiture devant la Cour suprême fait de lui le nouveau président de la transition malienne. Assimi Goïta a ainsi pris le pouvoir après avoir accusé l'ancien président de la transition Bandao d'avoir violé la charte de transition. Quels sont les principaux grands défis que doit relever donc à présent le nouvel homme fort du Mali, Arimé?
Écoutez, c'est deux tout au plus trois choses mm-hmm. essentielles. Il faut retenir que à la veille de son second coup d'État, mm-hmm. Les fonctionnaires maliens étaient dans la rue mm-hmm. parce qu'ils réclament une certaine amélioration de leurs conditions de vie et de travail.
Bien sûr.
Ça, c'est essentiel, c'est extrêmement important. Il faut gérer la situation sécuritaire avec le Burkina et le Niger. La situation reste ce qu'elle est. Aujourd'hui, on nous a dit que les Français étaient en train d'abattre un travail extraordinaire. C'est en 2012 que ça avait commencé au Mali. Nous sommes en 2021. Il n'y a rien qui s'est arrangé, sincèrement. Tout s'est empiré. La crise s'est étendue au Niger, puis au Burkina. La Côte d'Ivoire est touchée en ce moment. Donc, ça, c'est la deuxième chose vraiment qu'il doit régler. Et chapeau à lui, vraiment, il a pris l'engagement qu'en février prochain, mm-hmm. il va remettre le pouvoir à un président démocratiquement élu. Je le crois sincèrement. Je crois que Issou, on l'a cru, on l'a encouragé, il l'a fait. Et je crois qu'il va le faire. Je le crois plus que je ne crois les Tchadiens. Et sincèrement, je le dis. Et donc, vraiment, je pense qu'il va le faire.
On peut dire qu'il y a de l'espoir.
Qu'il va le faire mm-hmm. parce que on sent qu'il a le soutien du peuple malien, mm-hmm. surtout de ses frères d'armes mm-hmm. maliens, et nous-mêmes, dans la sous-région, sincèrement, si on fait un scrutin mm-hmm. aujourd'hui, un sondage, c'est sûr que les Africains de l'Ouest le soutiennent. Mm-hmm. Parce que cette présence française, sincèrement, la France a été rattrapée à son propre jeu, en réalité. La France...
Autrement dit, vous étiez d'ailleurs contre la présence militaire française
écoutez,
au Mali.
Jusqu'à aujourd'hui, c'est l'histoire. Peut-être les historiens dans le futur nous diront qu'est-ce qui s'est réellement passé. On nous a parlé d'une colonne de 200 véhicules qui étaient en train de marcher sur Bamako et qu'ils les ont bombardés. On n'a pas vu de carcasse. On ne sait pas où est-ce qu'ils se sont dispersés pour rentrer. Et ça s'est arrêté là.
Merci.
Depuis, ils sont au Niger, au Tchad. Sincèrement, la France, je vous dis qu'elle a été rattrapée à son propre jeu.
Autrement dit,
là où ils ont remplacé le père par le fils, on trouve que c'est normal.
Okay.
Au Niger, on donne un prix à notre président qui s'en va. En même temps, d'autres qui ne s'en vont pas sont tout de même soutenus par la France.
Chers auditeurs, nous sommes au terme de ce forum de la presse de Studio Kalungu de ce vendredi 11 juin 2021. Nous disons merci à nos trois invités. C'était donc Elhaji Mohamedou Souleymane, journaliste au journal en ligne Niger Inter, Arimi Abokiari, journaliste à la radio alternative, et Sidiku Ousmane, il est journaliste indépendant. Merci à vous tous, chers auditeurs et auditrices, téléspectateurs et téléspectatrices, pour votre fidélité au programme du Studio Kalungu. Merci à vous également, chers invités. À la modération de ce forum, c'était Michel Deji. À la technique pour le son, Issa Lonli, à la régie vidéo, Mustapha Ayouba. Rendez-vous samedi et dimanche dès 17h sur nos 46 radios partenaires pour suivre le programme des jeunes avec l'actu des jeunes en 5 langues suivi de tous à la FADA. Et à partir de 18h15, samedi, le forum en Hausa sur le thème « Conditions de travail des maraîchers du périmètre de Jiratawa dans la région de Maradi » et dimanche, le forum en Zarma sur le thème « L'intérêt de l'agroécologie dans le développement agricole ». Merci de nous avoir suivis. Au revoir.